إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission l'explication du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes arrivés au chapitre numéro 7 concernant les formules de ruqya, d'exorcisme ou bien de conjuration, et les amulettes, les tamaim. Le Cheikh a cité dans le recueil de hadith authentique, Abu Bashir al-Ansari rapporte qu'il était aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant un de ses voyages, lorsque ce dernier envoya une personne ordonner aux gens de couper tous les colliers ou les cordes en boyaux accrochés au cou des chameaux. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Tout d'abord, ce chapitre a pour but de définir le statut religieux des différentes formules d'exorcisme ou bien de conjuration, ruqa, qui est le pluriel de ruqya. Et ruqya, c'est l'ensemble des invocations et des paroles que l'on prononce et que l'on récite après lesquelles on souffle sur la personne ou sur le membre atteint. Certaines de ces formules d'exorcisme ou de conjuration ont un effet physique sur le corps. D'autres ont un effet sur les âmes. Certaines d'entre elles sont permises et légiférées. D'autres sont une forme de polythéisme. En outre, il a été toléré les formules d'exorcisme exemptes de tout polythéisme. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mal à utiliser les formules d'exorcisme tant qu'elles ne comportent pas de polythéisme. En revanche, les formules polythéistes sont celles comportant des demandes de protection ou de secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou celles qui comportent les noms de certains démons, ou celles dont le patient pourrait croire que l'efficacité serait indépendante de la volonté divine. Tous ces types de formules d'exorcisme ne sont pas permis et font partie des formules de polythéisme. On va voir ça plus en détail tout à l'heure, inchallah, en expliquant les hadiths. Mais on peut rappeler ici les conditions pour qu'un exorcisme soit autorisé. Conditions pour que l'exorcisme soit autorisé. Premièrement, cet exorcisme doit être pratiqué dans une langue compréhensible. D'ailleurs, les savants ont divergé. Certains ont conditionné que ce soit obligatoirement en langue arabe. D'autres ont permis que ce soit par autre que la langue arabe, en langue française par exemple, en la langue dont on parle, si c'est seulement des invocations. Bien sûr, la personne ne va pas réciter le Coran en français. Le français n'est pas le Coran, ce n'est que l'explication du Coran, c'est du tafsir. C'est comme s'il lisait le tafsir sur le malade. Donc, s'il récite en français ou en une autre langue que la langue arabe, il va juste invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire des du'as, demander la guérison. Donc, la première condition, c'est que les paroles utilisées soient dans un langage clair et compréhensible, qu'il n'y ait pas des mots incompréhensibles. Et certains savants, comme on a dit, conditionnent que ce soit qu'en langue arabe. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de polythéisme, comme il est cité dans ce hadith, qu'il n'y ait aucune forme de polythéisme ou aucune chose interdite dans cette pratique. C'est-à-dire que la pratique en elle-même ne doit pas comporter de paroles, de situations ou bien de faits et de gestes interdits en islam. Et ceci est vaste. Et la plus grande des interdictions dans ce domaine, c'est bien sûr le polythéisme. Le polythéisme. Mais il y a d'autres interdictions. Il y a d'autres interdictions. Par exemple, certaines personnes qui voudraient utiliser, ça existe dans certains pays, ils prétendent exorciser les gens en utilisant de l'alcool, en les faisant boire, ou bien en faisant des choses qui sont interdites en islam, dans le fait qu'un homme et une femme ils soient seuls dans une salle, ou qu'ils touchent la femme alors qu'il n'est pas besoin de la toucher, car il lui suffit de réciter, même si elle est avec son mahram, même si elle est avec son mahram, ou bien d'autres règles, toutes les règles de l'islam concernant les relations entre les gens, ou les relations entre les hommes et les femmes s'ils sont de sexe différent, doivent être respectées dans ce domaine comme dans les autres domaines. Ce n'est pas parce qu'on est dans ce domaine que du jour au lendemain, il n'y a plus de règles. Ah, dehors, c'est interdit que je touche une femme, mais pour l'ouria, je dois toucher le droit. Dehors, c'est interdit de toucher l'alcool, mais pour l'ouria, j'ai le droit. Dehors, c'est interdit. Non, les règles de l'islam sont valables dans toutes les situations. Après, les cas de nécessité dans la médecine, les cas de besoin qu'un médecin touche une personne de sexe opposé, ça, c'est des cas exceptionnels. Quand il n'y a pas par exemple, de personnes du même sexe que la patiente ou que le patient qui peut le traiter et qu'il y a un besoin pour le médecin de toucher ce patient ou cette patiente. Mais pour l'ouria, entre autres, il n'y a pas une nécessité de toucher car l'objectif est la récitation. D'ailleurs, c'est là qu'on arrive à la troisième condition. Et cette condition, il y a ijmar dessus. Il y a unanimité des savants sur cette troisième condition. C'est que la personne doit avoir la certitude que cet exorcisme n'est qu'une cause et que la guérison est dans les mains d'Allah. D'ailleurs, l'exorciste, le raqi, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède auprès d'Allah par sa parole, par le Coran. Il intercède auprès d'Allah par des du'as, par des invocations, par le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme s'il invoquait Allah, tout simplement. Il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la guérison par la parole d'Allah. Il cherche la guérison à travers la parole d'Allah. Et il cherche la guérison de cette personne à travers les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup de gens ont compris les subterfuges des charlatans, des sorciers, mais bon nombre sont encore trompés par eux. Dès qu'ils se retrouvent dans une situation de détresse, ils ne font plus attention. Ils vont chez n'importe qui. Ils frappent à la porte de n'importe quel charlatan. Et il n'est pas permis à chaque personne de faire des expériences sur les gens. Mais sinon, c'est très simple, la ruqya. Quelqu'un peut faire ruqya à son enfant. Une femme, elle peut le faire à son mari. Le mari à sa femme. Et encore mieux, comme on l'a dit dans les chapitres précédents, encore mieux que tout cela, la personne, elle se fait ruqya à elle-même. Elle se fait ruqya à elle-même. Car la personne, quand elle est acculée, quand elle est dans la nécessité, quand elle est dans la difficulté, ses invocations sont plus à même d'être acceptées qu'une autre personne qui est peu touchée par son malheur, qui est extérieure à son malheur. Allah Ta'ala dit « Amman yujibul muttarra idha da'a ». On en a déjà parlé dans les chapitres précédents, mais comme ici c'est le chapitre spécifique pour ce domaine, j'y reviens. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets « Qui donc répond à l'acculé quand il l'appelle ?» Donc la meilleure chose, et c'est un conseil que je répète incessamment, à cette époque, la foi et la connaissance du tawhid est faible. Les charlatans sont nombreux. Et les gens qui profitent de la ruqya et de la détresse des gens pour profiter d'eux, de diverses manières, que ce soit financièrement ou que ce soit autrement, il y en a beaucoup. Donc mon conseil, au lieu de courir de partout et s'avilir devant les gens, avilis-toi devant Allah et demande la guérison à Allah. Tu n'as besoin de personne. Invoque Allah, pleure, tiens-toi aux obligations et fais-toi ruqya toi-même. Tu n'as besoin de personne. Concernant le deuxième point du chapitre, il a parlé de « At-tama'im ». « At-tama'im » qui est le pluriel de « tamima ». Et « at-tamima », c'est tout ce que les gens accrochent, que ce soit une peau d'animal, que ce soit un collier, que ce soit même des invocations, que ce soit des demandes de protection, ou bien une représentation comme une tête d'ours, ou une tête de gazelle, ou un fer à cheval, ou des morceaux de tissu noir, ou tout ce que l'on suspend en forme d'œil, ou les chapelets, les tesbihs, ou tout ce qui a une forme particulière, tout ceci est englobé par le terme tamim. C'est pour cela que certains savants l'ont défini en disant que tamim, c'est une chose au moyen de laquelle On voudrait que le bien se réalise ou que le mal soit repoussé, sans qu'une autorisation divine liée au décret religieux ou à la prédestination n'ait été accordée. Certains diront, moi j'accroche ces choses-là, ou les mains de Fatma, par exemple. Il y en a, ils vont dire, j'accroche ça, c'est juste pour faire joli. Je ne crois pas dans les significations qu'elles impliquent. C'est juste pour embellir ma maison, c'est pour embellir ma voiture. Alors on lui répondra, la personne qui suspend ces choses-là en pensant que ce sont des causes qui permettent de repousser et de dissiper le mal, alors il s'agit là d'un polythéisme mineur. Par contre, la personne qui la suspend par simple souci de décoration, alors cela restera interdit, car il y a une ressemblance en cela à ceux qui commettent le polythéisme mineur. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque imite un peuple en fait partie. De même, nous allons voir dans ce chapitre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de couper les cordes qui sont accrochées au cou des chameaux ou des bêtes. Et on va voir quelles croyances avaient les Arabes à l'époque concernant cela. Puis il a cité le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les formules de conjuration, ou bien les formules d'exorcisme, ruqa, les amulettes, al-tama'im, et al-tiwala sont une forme de polythéisme. C'est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud. Il y a une version détaillée de ce hadith. Il y a une histoire derrière ce hadith. Cette histoire, elle est rapportée par l'imam Ibn Majah et Ibn Hibban et d'autres, et elle a été authentifiée. Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, a dit, « Abdullah a vu une corde accrochée à mon cou. » Il a dit, « Qu'est-ce ceci ?» J'ai dit, « C'est une corde sur laquelle une personne m'a fait de l'exorcisme. » Elle a dit, « Alors Abdullah l'a pris et il l'a coupée. » Puis il a dit, « Oh vous, la famille de Abdullah, vous vous passez bien du polythéisme. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les formules d'exorcisme, les tama'im et tiwala sont du polythéisme. Elle a dit, mon œil me faisait mal. Alors, j'allais voir un tel le juif. Quand il me faisait ces formules d'exorcisme, ma douleur se calmait. Alors Abdullah a dit, tout ceci n'est que l'œuvre du shaytan. Shaytan, mettez son doigt dans ton œil. Et quand tu allais voir ce sorcier, il retirait son doigt de ton œil. Il te suffisait de dire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Adhib al-ba's, rabb an-nas, washfi anta ash-shafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Nous voyons ici en quelle occasion il a rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les formules d'exorcisme, les amulettes et at-tiwala sont une forme de polythéisme. Donc ce hadith, il vient confirmer les propos qu'on a cités précédemment, et il indique que toutes les formes d'exorcisme sont du polythéisme, sauf celles qui sont exceptées. Donc à la base, barakallahu fikum, ça rapporte une règle importante, c'est que toute formule de ruqya est haram, sauf ce qui a été excepté, sauf avec les conditions qui ont été acceptées. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a exprimé que toute forme d'amulette est aussi du shirk, du polythéisme. Que toute forme d'amulette est aussi du polythéisme. Nous allons voir plus tard, car le cheikh va en parler, concernant les amulettes comprenant du Coran. Nous allons en parler plus en détail plus tard, inshallah. Quant à la tiwala, c'était une sorte d'amulette spécifique qu'ils utilisaient pour lier un homme à sa femme ou la femme à son mari, pour qu'il y ait de l'affection entre eux, et c'est de la sorcellerie. Et ça s'appelle as-sarf wal-atf, c'est-à-dire l'éloignement ou l'attachement au conjoint. Tout ceci est de la sorcellerie, c'est du polythéisme et de la mécréance. Puis le cheikh a rapporté qu'Abdullah ibn Ukaym rapporte ces paroles qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Quiconque s'attache à une chose, il sera voué et sera délaissé par Allah. » Rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Puis le cheikh dit, les amulettes, al-tama'im, ce sont les choses que l'on accroche au cou des enfants pour les protéger du mauvais œil. Cependant, si l'élément accroché n'est autre que du Coran, alors certains prédécesseurs l'ont toléré. Ça, on va en parler, Inch'Allah. D'autres ne l'ont pas toléré et l'ont classé parmi les interdits, comme par exemple Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Les formules d'exorcisme, ruqa,
Il s'agit de ce que l'on appelle al-azaim. Cependant, les textes font exception de celles d'entre elles qui ne comportent pas de polythéisme, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré celles qui protégeaient du mauvais œil et du venin. At-tiwala, il s'agit d'une chose que les gens fabriquent en prétendant qu'elle suscite l'amour du mari pour son épouse et réciproquement. Nous allons citer après les différents textes que Cheikh a cités, juste après cela, inshallah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici Abdullah ibn Ukayn dit que toute chose à laquelle on s'attache en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque s'attache à une chose, n'importe quelle chose, il sera voué, il sera délaissé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça englobe tout type de choses. Et celui qui vient restreindre cette généralité rapportée dans le hadith, alors il a contredit le hadith. Et il n'a aucune preuve en cela. Car le hadith est général. Donc toute personne qui se voue à autre qu'Allah, qui place sa confiance à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, alors il est concerné par ce hadith. Car la réussite du serviteur et la réalisation de ses objectifs, cela ne peut se faire qu'en plaçant sa confiance à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Que ce soit dans ses actes, dans ses propos, dans son avenir, dans l'éloignement des maux, dans toute chose, il a besoin de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est en Allah tabaraka wa ta'ala qu'il trouve toute l'attention dont il a besoin. Et c'est en Allah tabaraka wa ta'ala qu'il trouve la paix de l'âme et la joie. Et c'est à lui qu'il doit être attaché. Et c'est à lui qu'il doit s'en remettre seul, subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui seul, en lui seul, qu'il doit placer sa confiance. Quiconque atteint ce degré et cet état en reportant sa confiance totale en Allah, tabaraka wa ta'ala, et en chassant les créatures de son cœur, alors il verra qu'Allah l'aidera et le soutiendra, même si toutes les créatures se lient contre lui. Allah Ta'ala, il va lui ménager une issue de secours et une issue de sortie. Car toute chose est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le cheikh ici a cité al-tama'im, les amulettes, il a cité un type parmi les amulettes, celles qui sont accrochées au cou des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est seulement ce type d'amulette qui est interdit. Mais tout type d'amulette, comme on a cité tout à l'heure, des peaux, des têtes, des quoi que ce soit, un fil, un tesbih, une fatma, à la maison, sur une voiture, quoi que ce soit. Même Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit, celui qui met un Coran dans sa voiture ou dans sa maison, avec l'intention que ça va protéger sa voiture, alors c'est une innovation, c'est interdit. On ne dira pas que c'est du shirk, car le Coran c'est la parole d'Allah. Et c'est un attribut d'Allah. Donc il n'a pas pris aide chez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quand même interdit, c'est une innovation. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir bientôt. Donc quand le cheikh a dit, cependant si cet élément accroché n'est autre que du Coran, alors certains prédécesseurs l'ont toléré. En réalité, on retrouve dans la parole du cheikh ici, dans les shuruhat de ses petits-fils et dans les shuruhat des ulama, qu'il cite un hadith qui revient à certains compagnons qui auraient autorisé d'accrocher des talismans avec du Coran seulement sur les enfants pour les protéger. Mais en réalité, quand on recherche sur l'authenticité de ces hadiths, en vérité, aucun d'entre eux n'est authentique. Donc même ceux qui furent rapportés de Abdullah ibn Amr ibn al-As n'est pas authentifié en réalité. Et au contraire, ceux qui sont authentifiés, c'est ce que Abdullah ibn Mas'ud et ses compagnons faisaient, c'est-à-dire qu'ils détestaient cela. Et al-karaha chez les salafs, chez les pieux prédécesseurs, ça veut dire tahrim, l'interdiction. Ils voyaient l'interdiction de cela, même si c'était du Coran. Mais si une amulette ou un talisman ne comporte que du Coran, on ne dit pas que c'est du shirk. On ne dit pas que c'est du polythéisme mineur, ni majeur. On dit simplement que c'est interdit, car c'est la parole d'Allah. Et quelqu'un qui cherche aide dans la parole d'Allah, on ne peut pas dire qu'il a fait du shirk, car c'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il aura fait quelque chose qui n'est pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Donc on dira qu'il a fait quelque chose d'interdit. Certains iront plus loin pour dire que c'est une bid'a, c'est une innovation religieuse. L'imam Ahmed rapporte que Ruwayfi' a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, « Oh Ruwayfi', peut-être que tu vivras assez longtemps pour informer les gens que celui qui tresse sa barbe dans une autre compréhension, celui qui lisse, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ou accroche une corde en boyau contre le mauvais œil, ou se nettoie après un besoin à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os, qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Qu'il sache que Muhammad se désavoue de lui. Ici, quand il a parlé, celui qui tresse sa barbe. En fait, Il y a deux manières de comprendre ce qui est voulu par cela dans le texte. Ici, la traduction a été faite par tresser. On peut retraduire par aligner sa barbe ou bien la coiffer de la manière des hommes efféminés. Tresser sa barbe, c'est ce que certains parmi les gens de l'Jahiliya, de l'époque pré-islamique, faisaient pour s'enorgueillir sur les gens. C'était une manière spécifique de tresser la barbe. Ça peut vouloir dire aussi le fait, comme a dit Cheikh Ibn Baz, que certains ulama disent ceux qui coiffent leur barbe d'une manière pour ressembler aux hommes efféminés. C'est-à-dire ceux qui exagèrent dans la manière dont ils font un style et un modèle, une coupe à leur barbe. À l'exemple des femmes qui donnent trop d'importance à leur coupe de cheveux. Donc dans ce hadith, certains savants voient que c'est les hommes qui font un surplus d'attention à leur barbe en la lissant, en la mettant droite, comme une femme pourrait faire pour ses cheveux. Et ce hadith indique que ces actes-là font partie des grands péchés, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue d'eux. Puis il a parlé ou accroche une corde en boyau contre le mauvais œil. En fait, c'est les cordes des arcs, quand on dit les cordes en boyau, car les cordes des arcs avant, elles étaient faites avec les boyaux. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, je crois que les bons arcs sont faits avec des boyaux, la corde. En fait, les Arabes à l'époque pré-islamique, ils avaient une croyance. Quand ils utilisaient leur arc, une fois que la corde était usée, ils la coupaient et ils l'accrochaient autour de leur cou ou bien autour du cou des animaux. En disant, comme cet arc il a servi à la guerre, alors il y a la baraka dedans, il y a la bénédiction dedans. Donc en l'accrochant autour du cou de mon animal, ça va repousser le mauvais œil. Et ceci est donc un acte de polythéisme mineur. Sauf si la personne pense que cette corde peut nuire ou être bénéfique sans le décret divin et sans la volonté divine. Dans ce cas-là, ceci est du polythéisme majeur, comme je l'ai expliqué dans les cours précédents. D'ailleurs, j'avais fait un lapsus, car j'avais différencié les deux cas, et j'avais répété majeur deux fois à la place de dire mineur. Alhamdulillah, dans le cours enregistré, cela a été corrigé. Et nous avons écrit un message pour spécifier cela. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam stipule ici l'interdiction d'accrocher ce type de corde ou tout type de talisman ou tout type d'amulette pour repousser le mauvais œil ou bien le mal ou bien pour s'en soigner. Waqir rapporte de Saïd ibn Jubayr qu'il a dit « Celui qui arrache l'amulette du cou d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave. » Cette parole, c'est une parole qui vient de lui et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains pourraient dire mais ceci, il ne peut pas le dire de lui-même sans qu'une version lui ait été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ceci est sa compréhension dans le sens, c'est comme libérer un esclave, comme s'il avait libéré un esclave d'Allah du feu de l'enfer. Car les amulettes sont du polythéisme et c'est une cause d'emmener les gens en enfer. Donc c'est comme si on l'avait libéré de ses chaînes qui allaient le traîner dans le feu de l'enfer. C'est dans ce sens-là. Waqir rapporte aussi, d'après Ibrahim. Ibrahim, c'est le compagnon de Abdullah ibn Mas'ud, Ibrahim al-Nakha'i, qui est l'élève de Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, il considérait les amulettes comme détestables, qu'elles contiennent du Coran ou autre chose. Quand il dit il parle de Abdullah ibn Mas'ud et de ses compagnons, des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, qui détestaient cela dans le sens qu'ils interdisaient cela. Tout type d'amulettes, tout type de talismans. Que ce soit que ce talisman ou cette amulette comprenne que du Coran ou bien autre chose. Car s'il y a autre chose, dans ce cas-là, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Et s'il contient que du Coran, cela reste interdit, même si on ne nomme pas cela du polythéisme. Donc, ce que l'on peut résumer de ce chapitre. Premièrement, tout type d'exorcisme est interdit, sauf ce qui a été excepté par la législation islamique, c'est-à-dire celle qui ne comporte pas du polythéisme, celle qui est dite avec des paroles claires et nettes, celle dans laquelle il n'y a aucun interdit, et celle pour laquelle on sait que ce n'est qu'une cause, et que la guérison est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et malgré cela, comme je le dis et je le répète, je conseille vivement à qui que ce soit de ne faire appel à personne et de se faire ruqya soi-même. La deuxième chose que l'on peut résumer de ce chapitre, c'est concernant les amulettes. Tout type d'amulettes, tout type de talismans sont interdits. Tous, que ce soit avec du Coran ou sans Coran. Mais si ce sont des amulettes dans lesquelles il y a autre chose que du Coran, ou du Coran et autre chose que du Coran, qui est mélangé avec, alors c'est du shirk. Et si ce sont des amulettes qui comportent que du Coran, on dit que c'est interdit, mais on ne nommera pas cela du polythéisme, du shirk, car le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ne l'a pas ordonné, les compagnons ne l'ont pas fait, ne l'ont pas ordonné, donc c'est une chose sur laquelle n'était pas ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, radiyallahu anhum. Et comme on l'a précisé pendant le cours, ce qui est rapporté par certains compagnons concernant cela n'est pas authentifié. Bien au contraire, il a été prouvé que toutes ces versions ne sont pas authentiques. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.